Seigneur, qui nous prête vie et qui nous donne encore une occasion de parler de sa part. Je voudrais dire également merci au pasteur Joseph Bondo pour avoir été sensible à l'esprit et d'avoir accepté que je puisse apporter la parole de Dieu ce matin. Et à vous également, je vous dis merci pour vos prières. Eh bien, ce matin, nous lirons une fois de plus dans Jacques, le livre de Jacques, à partir du chapitre, dans le chapitre 2, du verset 1 jusqu'au chapitre 13, et jusqu'au verset 13. Jacques 2, du verset 1 au verset 13. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez les pauvres. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous fais ce matin, de pouvoir entendre ta parole, de ce que cette parole trouve un chemin dans nos cœurs. Ce matin, Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif, Seigneur, de t'entendre. Laisse que cette parole, Seigneur, puisse nous changer, nous transformer. Car dans la mesure où nous la mettrons en parole, Seigneur, nous verrons nos vies transformées. Bénis ces instants, Seigneur. Bénis, Seigneur, celui que tu as choisi. Cet outil faible, Seigneur, mais entre tes mains, tu peux t'en servir et que la gloire soit pour ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Aimer le non-aimable. C'est le thème que j'ai choisi pour ce matin. Vous savez, pendant la guerre de Corée, il y avait les armées de la Corée du Nord qui se battaient contre les armées de la Corée du Sud. Et souvent, Les forces communistes du Nord avaient envahi plusieurs villages du Sud. Et dans chaque village, ils avaient comme premier geste, c'était de réunir les leaders du village. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans un village, l'officier communiste, ayant appris qu'il y avait un chef d'orphelinat, un dirigeant d'orphelinat qui était chrétien, il a choisi d'épargner la vie à cet homme. Mais comme il tenait toujours à mettre la terreur dans les cœurs de ces gens, il a voulu qu'ils puissent assister au moment où on allait exécuter son fils de 19 ans. Et puis la guerre était terminée. L'officier communiste a été capturé. Il a été jugé devant un tribunal des Nations Unies. Il a été condamné. Mais lorsque le verdict a été prononcé, le dirigeant de l'orphelinat est venu et il a demandé au tribunal d'épargner la vie à cet homme qui avait tué son fils. Donne-le-moi, je m'en occuperai, je le formerai. Et nous voyons plus tard, il était fidèle à sa parole. Il a enseigné cet homme, il a formé celui qui a tué son propre fils. Et il est devenu un pasteur de premier plan dans la Corée du Sud. Si vous êtes comme moi un peu, ou bien si vous attendez de cette histoire, je crois que la question qui passe à l'esprit, la question à laquelle nous devons méditer, auriez-vous pu relever le défi d'aimer, de pardonner, de former un tel ennemi qui a supprimé la vie de votre propre fils? Auriez-vous pu plaider pour sa vie devant un tribunal militaire? Auriez-vous pu le recevoir chez vous? Heureusement, ce matin, avec Clémence, je n'ai pas à répondre à cette question. Et pourtant, Dieu l'a fait pour vous et pour moi. C'est à cause de nos péchés que son Fils est mort à la croix. Et Dieu nous aime, Dieu nous pardonne, Dieu nous forme, Dieu fait de nous des disciples. Et Dieu nous envoie pour répandre l'histoire de son amour. Dieu nous envoie pour répandre l'histoire de son pardon. Ce matin, bien-aimés, nous sommes en mission pour Dieu, pour aimer le non-aimable. Nous sommes en mission pour Dieu, pour attirer les pécheurs dans son royaume. Alléluia. Notre espérance est enracinée dans l'amour de Christ, mort à la croix. Il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux et il nous conduira un jour dans sa présence. Alléluia. Christ ressuscité, c'est notre seule raison d'être là ce matin. Je n'aime pas beaucoup ce débat que je suis dernièrement sur le Christ ressuscité. Bien aimé, parce que Christ est ressuscité, j'ai l'espoir qu'un jour je ressusciterai avec lui. Parce que Christ est ressuscité, ce matin, il peut guérir ceux qui sont malades. Parce que Christ est ressuscité, ce matin, vous pouvez lui amener vos fardeaux et il va apporter la solution. Alléluia. Christ ressuscité, c'est notre seule raison de vivre ce matin. Bien aimé, vous savez, comme moi, à quel point il est facile d'aimer les bonnes personnes. À quel point il est facile d'aimer les personnes qui nous aiment, d'aimer les personnes qui nous sont utiles, d'aimer les personnes qui peuvent influencer positivement nos projets, d'aimer les personnes qui partagent notre opinion. Cela ne nécessite pas une nouvelle nature. Cela ne nécessite pas une foi transformatrice en Christ. Cela ne nécessite pas un pouvoir surnaturel. C'est naturel. Comme qui dit, même un enfant dirait que c'est évident. Mais aimer celui qui n'est pas aimable ne vient pas naturellement. Aimer celui qui parle mal de vous. Aimer celui qui vous contredit. Aimer celui qui vous critique. Aimer celui qui vous détruit. Aimer, peut-être ce matin, vous êtes orphelin de père parce que quelqu'un a supprimé la vie de votre père. Vous êtes privé d'un membre de famille parce que quelqu'un a choisi de supprimer la vie de votre parent. Mais aimer, bien aimé, celui qui a tué votre parent, ce n'est pas facile. C'est l'une des choses les plus difficiles, même pour un chrétien. Et c'est pourquoi dans ce passage, Jacques nous dit, la capacité d'aimer les non-aimables est une évidence de la foi. Mais ce passage, si nous voulons bien le comprendre, il faudrait que nous puissions le remettre dans son contexte. Vous savez, souvent, les gens ont l'habitude de sortir le mot de son contexte, de sortir le passage de son contexte. Et quand vous faites ça, c'est comme ça que les hérésies naissent. Il faut toujours lire la Bible dans son contexte. Et même en français, un mot n'a de sens que dans la phrase. Une phrase n'a de sens que dans le paragraphe. Et le paragraphe n'a de sens que dans le chapitre. Et le chapitre n'a de sens que dans le livre. Nous devons apprendre à lire la Bible dans son contexte. Et ici, si nous remettons dans le contexte, nous verrons bien que l'interprétation que donnent plusieurs sur ce passage, parce que plusieurs pensent que Jacques ferme la porte aux riches. Non, ce n'est pas ça que Jacques est en train de dire. C'est parce qu'il y avait un problème dans l'église primitive, dans cette église naissante. Et ce problème peut avoir une application pour nous ce matin. Nous savons que dans la culture juive, dans les synagogues, il y avait une classe de gens qui étaient des manipulateurs, qui étaient des intimidateurs. Et ces gens avaient soif de reconnaissance. Ils avaient soif d'honneur. Et ils cherchaient à s'asseoir dans certains endroits pour recevoir les louanges. Matthieu 23, 6 à 7, Jésus les dénonce. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Et du reste, si nous avions lu le verset 5, nous verrions que Jésus dit qu'ils sont reconnaissables par leurs vêtements et par les bagues qu'ils portent à chaque doigt. Ainsi, ceux qui n'avaient pas de bagues allaient les louer. Et ils faisaient tout ça pourquoi ? Parce qu'ils voulaient que toutes leurs actions soient vues des hommes. Et Jacques veut se rassurer que ce problème, ce piège du pharisianisme ne va pas se répercuter dans l'Église, comme c'était les premiers chrétiens, c'était des judéo-chrétiens qui n'allaient pas amener cette mauvaise habitude dans l'Église. Malheureusement, dans le premier siècle, comme au 21e siècle, nous voyons que dans de nombreuses églises, il y a une tendance trop humaine de faire preuve de partialité envers les personnes influentes, ignorant et rabaissant celles qui ne sont pas influentes. Mes frères, nous voyons aujourd'hui encore dans l'Église des gens habitués à faire ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir de l'importance dans l'Église. Ils veulent contrôler l'Église. Je pourrais les appeler des grimpeurs des pyramides. Ce sont des chefs d'Église qui se cachent dans les coulisses. Et lorsqu'ils appuient sur le bouton ou bien tirent sur les leviers, eh bien, la machine de l'Église est obligée de se soumettre à ce qu'ils disent. Quand ils parlent, le pasteur et le comité doivent se soumettre. Ils tentent d'une manière ou d'une autre d'imposer leur volonté à l'Église. Ils font savoir que leurs idées sont les meilleures. Ils font savoir que leurs méthodes sont les plus intelligentes. Ils font savoir que leurs plans et leurs solutions sont plus fiables. Ils utilisent la richesse, ils utilisent leurs biens, ils utilisent tout ce qu'ils ont pour pouvoir imposer leur volonté dans l'Église. Et parfois, ils deviennent des leaders, ils deviennent des enseignants, mais pour des raisons inavouées, pour leur propre ego. Bien-aimés, sachez que l'Église n'existe pas pour nourrir l'égoïsme des hommes. L'Église n'existe pas pour nourrir l'égoïsme des gens. Le Seigneur voit non seulement ce que vous donnez, mais il voit aussi ce que vous gardez. Amen. Le Seigneur voit ce que vous donnez, mais il voit aussi ce que vous gardez. Bien-aimés, une vie d'amour est bien plus profitable. Et l'amour, c'est la porte qui nous fait passer de cette vie d'égoïsme à une vie de service. J'ai béni le Seigneur que dans cette église, des gens bénis par le Seigneur matériellement et qui sont les moins bruyantes, qui se donnent en silence. Bien-aimés, l'ennemi utilise cette forme d'intimidation pour empêcher les hommes de Dieu de proclamer la vérité de l'Écriture. L'ennemi utilise cette forme d'intimidation pour amener les hommes de Dieu désireux de se faire accepter par la société afin qu'ils disent le contraire de leurs propres convictions. Ils compromettent leurs convictions. Et parfois, ils vont utiliser un langage double, un langage évasif, un langage qui sème la confusion dans les esprits. Mais nous savons que Jésus ne fait exception de personne. Amen. J'aime bien un film que j'ai vu. C'était Pollyanna. Ça doit être un film de Walt Disney. Ce film m'a beaucoup édifié. Il y avait une orpheline. Et cette orpheline vivait chez sa tante, qui était très influente et à cause de sa richesse. C'est au point même le pasteur, le révérend Ford, je crois, de son nom, il se soumettait à cette tante. Elle dictait même au révérend le message qu'il devait prêcher. Et quand le révérend se retrouvait en conflit avec l'Église et elle, le révérend devait toujours trouver de belles excuses pour se soumettre à ce que la tante de Pollyanna voulait. Mais heureusement, un jour, cette orpheline, comme par innocence, dira au révérend, personne ne possède l'Église. Et c'est à ce moment-là que le révérend, sa conscience va se réveiller et il va comprendre qu'il a été lâche pendant plusieurs années. Et c'était comme si cette tante possédait l'Église. Et désormais, il a commencé à servir Dieu au lieu de servir la volonté de la femme. Bien-aimé, c'est une idée qui est simple mais profonde. Aucun être humain n'est propriétaire de l'Église. L'Église, c'est l'épouse de Christ. L'Église, c'est la possession de Christ. Seul Christ a le droit de contrôle sur l'Église. Et c'est ça le thème de ce deuxième chapitre. L'Église est la propriété de Christ. Jésus n'a jamais eu l'intention qu'elle soit conforme aux normes du monde pour plaire à des individus puissants. Et en tant que chrétien, nous devons plaire à Jésus. Alléluia. Jésus ne s'est jamais laissé intimider par ces pharisiens. Lisez bien la Bible, vous verrez plusieurs fois, ils sont venus avec des questions captieuses, essayant de le troubler. Mais Jésus leur a résisté. Et je vois encore une fois, ils sont venus avec des questions. Et Jésus leur a aussi posé une question. Ils n'ont pas voulu répondre. Et Jésus a dit, moi aussi je ne répondrai pas à votre question. Et quand nous lisons dans Matthieu 22, 16, voici ce que Jésus ses ennemis vont dire à Jésus. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Et une autre version dit, tu ne te laisses pas influencer par les hommes parce que tu ne fais pas attention à qui ils sont. Et je répète, Jésus ne faisait pas exception des personnes. Et je redis, amen. Nous voyons que dans cette première église, il régnait le favoritisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et du reste, si vous suivez l'histoire de l'église, vous verrez que dans la première église, pour éviter cette tendance, les pauvres, ou je dirais les esclaves et les maîtres, on avait l'habitude de les mettre ensemble. Et du reste, même les maîtres recevaient des esclaves les ordonnances. Et un jour, il y a un général qui est entré dans une église, alors qu'il voulait recevoir la Sainte Cène. Il s'est agenouillé. Un pauvre est venu s'agenouiller à côté de lui. Et lui s'y a couru pour le retirer. Mais le général a pris l'esclave dans sa main. Il a dit, laissez-le, c'est mon frère. Proverbe 22, 2 nous dit, le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Et dans Jacques 2, 6, nous avons lu tout à l'heure, et vous, vous avez dit le pauvre. Bien-aimé, faire preuve de partialité, faire preuve d'acception des personnes, c'est regarder à l'apparence. C'est établir des jugements, des distinctions sur la base des considérations extérieures sur la race, sur les biens, sur la tribu, sur le statut social, sur l'éducation, sur l'âge. Bien-aimé, Dieu ne le fait jamais. Dieu ne le fait jamais. Nous pouvons lire ça dans Lévitique 19, le verset 15. Lévitique 19, verset 15. Voici ce que Dieu nous dit. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Bien-aimé, faire preuve de partialité, c'est traiter certains dans l'Église comme étant plus favorisés, comme étant plus autorisés que d'autres. C'est comme si nous avions deux ensembles de règles. Des règles pour une catégorie et des règles pour une autre catégorie. Des règles pour les pauvres et des règles pour les riches. Faire preuve de partialité, bien-aimés, cela indique que nous vivons encore selon nos vieilles pensées et pas selon la nouvelle nature que nous avons eue, que nous avons reçue en Christ. Faire preuve de partialité indique que nous ne pensons pas avec l'Esprit de Jésus. Faire preuve de partialité, c'est être des juges avec des pensées mauvaises. Et Jacques nous dit, nous devons aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Et aimer celui qui n'est pas aimable, c'est vivre la loi royale. Je crois que c'est un des défis pour les parents. Lorsque vous avez plusieurs enfants, les aimer de manière impartiale. Souvent, les parents ont du mal à convaincre même leurs enfants. C'est toujours, voilà, tu préfères la cadette, tu préfères l'aîné. Mais l'objectif d'un parent chrétien doit être de représenter Dieu auprès de ses enfants, de les traiter avec impartialité, de les aimer aussi inconditionnellement comme Dieu nous aime. Matthieu 5, 47 nous dit, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Et Jacques 2, 8 ici insiste, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, c'est une loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Lorsque vous aimez celui qui n'est pas aimable, vous accomplissez la loi royale. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Je crois que pour plusieurs raisons que nous pouvons retrouver du verset 8 au verset 11. Pourquoi est-ce que c'est une loi royale? C'est l'excellence même suprême, c'est la perfection. Jacques 2, 9 nous dit, « Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Dans cette loi royale, nous voyons une idée de suprématie. Et quand j'y réfléchissais, je me disais, c'est comme s'il n'y a plus de cour d'appel. Si vous violez cette loi, c'est comme s'il n'y a pas une autre cour auprès de laquelle vous pouvez faire appel. C'est une loi d'excellence suprême. C'est la loi royale, pourquoi? Parce que Dieu le Père, lui le roi des rois, a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. C'est lui, Dieu le Père, le roi des rois, qui l'a dit. Pourquoi? Parce que Dieu le Fils, qui est le Seigneur de tous les seigneurs, l'a répété à ses disciples. Dans Jean 13, 34, 35, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Tous se reconnaîtront. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. L'amour, c'est le principal attribut de notre relation avec Dieu. Tragique de constater que l'amour qui est fondamental au caractère chrétien ne caractérise ni les membres, ni les ministères. Si nous regardons notamment dans l'église de Corinthe, l'amour était absent. Mais les croyants continuaient toujours avec leur propre marche, ils sont rentrés dans l'égoïsme, dans leurs propres intérêts, tout en maintenant le programme. Ils ont continué à courir à vide, ils ont continué à tourner le moteur de l'église, ils ont gardé la machine en marche, ils ont maintenu l'essentiel de la façade des activités, mais l'amour était absent. Comme ça peut être aussi notre cas, nous continuons, est-ce que l'amour est présent au milieu de nous? Sachez ceci, si l'amour est absent, Dieu interdit ça. C'est une excellence suprême, je dirais. Pourquoi? Non seulement parce que Dieu le Père l'a recommandé, non seulement parce que Dieu le Fils, le roi des rois, l'a enseigné à ses disciples, mais aussi parce que Dieu l'Esprit nous permet de la pratiquer avec tous, y compris avec les personnes peu aimables. Romains 5, verset 5, la dernière partie. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, eh bien, c'est une impossibilité. Et la deuxième raison, la première, nous avons dit que c'est l'excellence suprême. Mais la deuxième raison, c'est que c'est la reine de toutes les lois. C'est la reine de tous les commandements. Elle régit les autres commandements. Et nous pouvons le voir dans Galates 5, le verset 14. Il nous est dit, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans Romains 13, 10, il est dit, l'amour est l'accomplissement de la loi. Si vous aimez Dieu, vous ne chercherez pas un autre Dieu. Si vous aimez votre prochain, vous n'allez pas commettre adultère avec son épouse. Si vous aimez votre prochain, vous n'allez pas voler. Si vous aimez votre prochain, vous n'allez pas le tuer. Bien-aimé, cette loi, elle régit toutes les autres lois. Si nous vivons l'amour, eh bien nous vivons l'accomplissement de toute la loi. Et la troisième raison, et je crois que c'est la principale raison, lorsque vous et moi, nous obéissons à cette loi, nous devenons des rois. Nous devenons des membres d'une famille royale. Nous faisons partie de la royauté. Pourquoi, selon vous, Qu'est-ce que la haine fait dans la vie de la personne? Lorsque vous détestez quelqu'un, qu'est-ce que cela vous fait? Bien-aimé, cela vous fait que vous devenez un esclave de cette personne. C'est cette personne qui domine votre pensée. C'est cette personne qui, je dirais même, consomme votre énergie mentale, votre énergie émotionnelle. Lorsque vous haïssez quelqu'un, vous pouvez même tomber malade. Il y a des gens qui sont allés voir les médecins et le médecin n'a rien diagnostiqué, tout simplement parce qu'ils avaient de la haine en eux. Il y a des gens qui n'ont pas de sommeil parce qu'ils ont de la haine vis-à-vis de quelqu'un. J'ai déjà vu quelqu'un en train de marcher, en train de parler, lui seul. En tout cas, ça ne va pas se passer comme ça. Lui, il croit. Vous voyez quelqu'un qui se promène dans la rue simplement parce que cette haine est en train de le ronger dans son cœur. Bien-aimé, et si quelque chose consume tout votre temps, je dirais même que vous ne serez pas franc. Si vous faites exception des personnes, vous verrez même que vous ne serez pas vous-même. Je demande un témoin ce matin. Si vous faites exception, vous faites partialité, vous ne serez jamais vous-même. Vous verrez des gens qui veulent faire plaisir, parce qu'ils veulent faire plaisir aux autres, et ils abandonnent leur propre personnalité. Bien-aimés, l'amour nous libère de cet esclavage. L'amour nous donne le contrôle sur nos émotions. L'amour fait que nous devenons maîtres, rois de nos émotions. Et ce n'est que lorsque vous commencez à traiter toutes les personnes de manière impartiale que vous expérimentez la vraie liberté, la liberté absolue. Peut-être ce matin, vous vous demandez, mais j'aimerais bien pouvoir aimer inconditionnellement, aimer comme Jésus. Quelqu'un m'a dit, oui, aimer des gens qui ne sont pas aimables, comme vous le dites, c'est très bien, mais vous ne savez pas à qui j'ai affaire. Vous ne connaissez pas ma belle-mère, la mienne est bonne, très bonne, très gentille. Vous ne connaissez pas ma belle-mère. Vous ne connaissez pas ma belle famille. Vous ne connaissez pas mon patron, un violeur. Vous ne connaissez pas ce qu'il m'a dit, les paroles qu'il a prononcées contre moi, les choses qu'il dit contre moi. Bien-aimé, je comprends. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne connais pas les différentes personnes peu aimables dans votre vie. Mais je crois que j'ai vécu assez longtemps pour vivre les mêmes choses que vous. Et je maintiens, la parole de Dieu nous dit, il nous a donné le pouvoir de vivre l'amour royal avec toutes les personnes de notre vie. Dieu nous a donné ce pouvoir. Nous avons lu tout à l'heure Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu. Il parle de l'amour de qui? De Dieu. Cet amour a été répandu dans nos cœurs. Alléluia, par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Laissez vivre, laissez l'Esprit conformer votre amour à son amour. C'est pourquoi c'est une preuve de la foi. Lorsque vous aimez les personnes non aimables, eh bien vous accomplissez, vous manifestez votre foi en Christ. Matthieu 5, du verset 46 au verset 47. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? J'aime bien la version française courant. Parce que là on dit, pourquoi attendre une récompense de Dieu? Pourquoi devons-nous attendre une récompense de Dieu si nous aimons seulement les personnes qui nous aiment? Si nous aimons, nous saluons seulement les personnes qui nous saluent. Il dit, les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même manière? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? C'est pourquoi j'aimerais donner quelques conseils pratiques. Une des choses que vous pouvez commencer à pratiquer, pas seulement aujourd'hui, mais je vous demanderai de le faire régulièrement, semaine après semaine. Priez pour cette personne qui vous a profondément blessé. Pas seulement un jour, pas seulement que... Priez plusieurs jours, faites-le pendant plusieurs jours. Je sais que vous me direz, mais Dieu risque de les bénir, et moi je ne veux pas qu'ils soient bénis. Je me souviens, il y a quelques années, notre pays était envahi et nous étions à la chambre haute dans une réunion des hommes. Et on a demandé à un papa, qui n'est plus là, qui est décédé, de prier pour ce pays. Je vous assure, la prière ne venait pas. Et quand il a terminé, nous avons dit Amen et on s'est mis à rire. Mais essayez, Priez profondément pour cette personne qui vous a blessé. Pendant plusieurs jours, pendant des semaines, faites-le et vous serez étonné. Je sais que la tentation, c'est de dire, non Seigneur, je te prie, si un éclair dans les cieux, que cet éclair descende et détruise ce méchant. Sachez que cette prière ne vous libérera jamais. La haine, c'est comme une colère qui est réglée. La haine, c'est comme c'est la colère qui est installée. Et vous savez, la colère, c'est comme de l'acide. L'acide, elle va détruire le vase dans lequel, le vase qui le conduit et qui le contient, comme aussi l'acide détruit l'objet sur lequel il est déversé. L'acide corrode votre vie. La colère corrode votre vie. C'est pour ça que nous devons aimer les personnes peu aimables dans notre vie. Deux suggestions que j'aimerais vous proposer ce matin. C'est vrai, lorsque je parle d'aimer les personnes non aimables, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez être son ami intime. C'est possible, Dieu est capable de le faire. Mais ce n'est pas ça que je suis en train de vous suggérer. Lorsque je parle d'aimer le non aimable, je ne suis pas en train de vous dire d'aller en vacances avec cette personne. Vous allez à Mwanda. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de vous proposer. Je ne suis pas non plus en train de dire que vous allez être d'accord avec elle. Accepter les paroles ignobles que cette personne dit. Accepter les actions blessantes que cette personne fait. Accepter ses habitudes destructrices. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, c'est de retirer et de continuer à retirer de votre cœur cet acide corrosif de la haine. Comment en traitant cette personne avec amour, tout comme Dieu nous a traités, vous et moi. Dieu nous a aimés inconditionnellement. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu ne m'a pas dit, tu changes d'abord pour que je t'aime. Non. Romains 5, 8. Mais Dieu montre ou prouve son amour d'abord. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que j'étais encore alcoolique, alors que j'étais encore impudique, alors que je vivais encore dans le péché, Christ m'a aimé d'abord, alors que j'étais en rébellion contre lui. Parfois je me demande, Dieu, pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi moi? C'est une question qui me dépasse parce que, regardant moi-même, je connais les œuvres impies. Je connais les œuvres des ténèbres dans lesquelles je me trouvais. Mais Dieu m'a aimé. Dieu m'aime. Et je dirais qu'il vous aime. Dieu vous aime, bien-aimé. Dieu nous aime, non pas en vertu de ce que nous sommes, mais en vertu d'abord de ce qu'il est lui-même. Et Dieu est amour. Et c'est pour ça, Jésus, avant d'aller à la croix, il a dit à ses disciples, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc la première, c'est retirer cet acide de votre cœur. La deuxième chose que je vous propose, vous savez que ce genre d'amour dont parle l'Écriture et qui fait de nous des rois, cet amour qui nous libère, ce n'est pas une expérience émotionnelle. Où nous voyons tout d'un coup, vous allez avoir un sentiment chaleureux et flou envers une personne. Plusieurs personnes confondent à ce niveau-là. La loi royale qui fait de nous des rois et qui nous libère, ce n'est pas essayer forcément d'afficher un faux sourire. Chaque fois que nous voyons la personne, « Shalom, frère ». Mais vous savez que dans les cœurs, ce n'est pas ça. Non, il ne faut pas afficher un faux sourire. Aimer les autres avec l'amour de Christ n'a rien à voir avec le fait de coller un faux sourire sur nos visages. L'amour n'est pas hypocrite. Ce genre d'amour étranger, ce genre d'amour contre nature à l'expérience humaine, au début, au premier siècle, il n'y avait pas de mots pour le décrire. Ce sont les auteurs du Nouveau Testament qui l'ont appelé par le mot « agapé ». Ils avaient le mot « eros » et « phileo » et d'autres mots, mais ils n'avaient pas de mots pour décrire cet amour. Et ils ont utilisé le mot « agapé ». Et ce mot est devenu courant dans le vocabulaire grec après la mort du Christ sur la croix et sa résurrection. Donc je dirais, c'est un amour uniquement chrétien. Et cet amour uniquement chrétien, c'est toujours de l'action. Cet amour a à voir avec la volonté, avec votre volonté. L'amour de Christ est un acte de volonté. Ce n'est pas un sentiment émotionnel. Jésus est mort pour nous. Nous pouvons être pardonnés et jouir de l'amour du Père ce matin. C'est un amour sacrificiel, l'amour de Jésus. C'est cet amour qui nous lave de nos péchés, de notre culpabilité ce matin. Verset 12 jusqu'au verset 13. Ainsi, parlez et agissez comme ceux qui doivent être jugés sous la loi de la liberté. Bien-aimés, nos actes, nos actions seront jugées. Et il continue au verset, car le jugement est sans pitié pour celui qui n'a montré aucune pitié. La miséricorde triomphe du jugement. Nous faisons miséricorde, pourquoi? Parce qu'il nous a fait miséricorde. Il y a trop de méchanceté, même parmi les enfants de Dieu. Nous voyons les disciples du Christ qui passent du temps davantage en train de condamner les autres plutôt qu'à prier pour eux, plutôt qu'à manifester l'amour. Ils perdent leur crédibilité spirituelle. Lorsque nous passons notre temps à critiquer, à condamner les autres, au lieu de prier pour eux, au lieu de manifester notre amour envers eux, eh bien nous perdons notre crédibilité spirituelle. Et c'est pour ça, chaque fois qu'une personne, personnellement, ça m'arrive, me blesse, j'ai choisi de prier. Prier et de demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi l'occasion de faire miséricorde à cette personne. Seigneur, donne-moi une opportunité afin que je puisse faire miséricorde à cette personne. » Et je vous dirai, Dieu me donne toujours l'opportunité. Je peux obéir ou ne pas obéir. Mais Dieu nous donne toujours l'occasion de manifester la miséricorde envers ceux qui nous blessent, afin que nous puissions manifester une grande bonté envers eux. Bien-aimés, cela va contribuer à notre guérison et va nous libérer plus que toute autre chose au monde. J'aimerais terminer par une autre histoire. Et cette histoire date de l'époque où les Turcs et les Arméniens se battaient. Et les Turcs, il y a des soldats turcs qui pourchassaient une famille. Il y avait un frère et sa sœur. Et à un certain moment, le soldat turc a coincé le frère et la sœur. Et il a tué le frère, il a laissé la sœur. Un jour, ce même soldat qui a tué le frère est venu dans un hôpital. Il était couché sur une civière. À la moindre inattention, il allait mourir. Et vous voyez, tout dépendait de cette sœur-là. Si elle ne faisait rien, ce soldat turc allait mourir. Et j'imagine la lutte qui est en vous et la lutte qui est en moi. La chair disait « vengeance, vengeance, vengeance ». Mais le Saint-Esprit disait « miséricorde, miséricorde, miséricorde ». Et la sœur, elle a cédé au Saint-Esprit. Il a ramené cet homme à la vie. Mais le soldat l'avait reconnu. Et le soldat lui a dit « pourquoi ne m'as-tu pas laissé mourir ?» Et elle a dit ceci, « Jésus m'a aimé pendant que je péchais et j'essaie d'imiter mon Jésus. » Et le soldat lui dira, « Je veux embrasser ton Jésus. » Alléluia. Bien-aimé, l'amour est un aimant qui attire les croyants ensemble et qui attire les incroyants vers Christ. Peut-être ce matin, vous êtes préoccupé par quelqu'un qui a besoin du Seigneur. Je vous propose de prier pour elle et de continuer à l'aimer en action et en vérité. Peut-être vous chercherez à savoir qu'est-ce qui vous motive pour le faire. Un jour, il découvrira que c'est Jésus. Aimer les perdus, c'est le premier pas à faire si nous voulons les conduire à Christ. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Sotito kolingana yasoo. Pour ceux qui ont été blessés et qui voient qu'ils sont dans l'incapacité de faire du bien à ceux qui leur ont fait du mal. Ce matin, le Saint-Esprit nous dit qu'il a été répandu dans nos cœurs afin que l'amour de Dieu puisse être manifesté. Aujourd'hui, c'est un jour de guérison. Nous voulons sortir libres de ces lieux. Oui, le Seigneur veut toucher. Le Seigneur veut guérir ce matin. Oui, si tu es là, tu peux lever ta main simplement et nous pouvons prier pour toi. Lève ta main, n'aie pas peur. Lève ta main, le Seigneur veut te guérir. Cette parole, c'est pour toi. Aimer le non-aimable. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Cela est impossible à nous-mêmes, mais avec la grâce du Saint-Esprit, cela est possible. Alléluia.
Merci pour les mains qui sont levées. J'aimerais que pendant ce moment, vous fassiez cet exercice d'être encore plus concret. Est-ce que c'est ton bailleur ou ta bailleresse? Est-ce que c'est ton mari ou ta femme? Tu as vraiment besoin d'aimer à cause des choses qu'il fait. Va prier pour lui. Est-ce que c'est ce frère qui dilapide les biens de la famille ou qui a pris un gros morceau de l'héritage et qui disparaît? Est-ce que c'est tel responsable qui, à chaque fois, lorsqu'il y a une mission, enlève ton nom de la liste? Ou c'est cette personne qui n'arrive pas, avec qui ça ne colle pas? J'aimerais que tu identifies une personne. Est-ce que c'est tel enseignant ou je ne sais pas quoi? Que tu pries pour lui pendant ce temps. Dis, Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas pu manifester l'amour d'une certaine manière et mon cœur a été rempli de haine. Je veux être guéri. Est-ce que c'est dans des rapports parents et enfants, voisins, voisines, des gens qui ont colporté contre toi? Élevons nos voix tous ensemble afin que nous prions. Ouvrons nos cœurs et libérons-nous de cette gangrène qu'est la haine ou la jalousie. Seigneur, nous t'apportons nos cœurs, t'apportons nos vies, t'apportons notre être tout entier. Pardonne-nous lorsque nous n'avons pas pu aimer notre prochain comme tu nous le demandes. Pardonne-nous lorsque nous avons été remplis de haine, lorsque nous avons agi par vengeance, nous avons agi d'après la chair. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous avons mis de côté la loi royale de l'amour. Ô Jésus, pour nous rendre notre propre justice, pardonne tout le mal que nous avons fait. Ou pardonne même à nos bourreaux, comme toi tu as prié pour ceux qui te crucifiaient, qui crachaient sur toi. Tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Seigneur, que ton amour grandisse en nous par le Saint-Esprit et donne-nous de pardonner nous aussi. Donne-nous d'aimer au-delà. Et nous prions même pour ces personnes qui nous font du tort, qui font couler des larmes chaque jour. Seigneur, pour ceux qui disent du mal et qui font du mal, Seigneur, pardonne-leur, car elles ne savent pas ce qu'elles font. Pardonne-leur et donne-leur, nous, de les aimer, de les pardonner. Ô Jésus, fortifie-nous dans cet exercice de chaque jour et guéris les cœurs de mon frère et de ma sœur. Répands encore de ton esprit, ranime nos cœurs et rends-nous la vie. Enlève l'amertume dans les cœurs. Ô Jésus, merci de faire ton travail.